Hola.
Buongiorno a tutti.
Hello.
Bonjour. Bienvenue dans Chez nous l'Europe sur RCF. Je suis Victoire Delemeau du Lablisieux Normandie et nous retrouvons Stéphanie Yoncourtin, députée européenne et présidente de l'association Renaissance 14. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Victoire.
Alors j'aimerais tout d'abord revenir avec vous sur la PAC, la politique agricole commune. On avait déjà évoqué le sujet lors de notre dernier échange le 9 novembre. Vous nous aviez résumé les initiatives décidées à ce moment et annoncé qu'un tiers du budget européen 2021-2027 serait dédié à la PAC. Elle a récemment été votée au Parlement européen. Y a-t-il eu des changements depuis notre dernier échange sur ce point ?
Il y a plutôt une confirmation de la bonne tendance sur la PAC, c'est-à-dire que nous avons voté cette semaine au Parlement européen à une grande majorité après plusieurs années de négociations. Quand je dis nous, c'est le Parlement européen, la réforme de la politique agricole commune qui s'appliquera dans tous les États membres de l'Union européenne à partir de 2023 jusqu'à 2027. Vous l'avez dit, la PAC, c'est un tiers presque du budget de l'Union européenne et ça représente une enveloppe d'environ 50 milliards d'euros par an. Et la France est le premier État bénéficiaire de la PAC. Et alors, cette PAC, elle reprend plusieurs objectifs que nous avons défendus au Parlement européen avec mes collègues eurodéputés Renaissance, en particulier Jérémy De Serres, qui est également agriculteur et qui a joué un rôle central dans la négociation. Alors d'abord, elle apporte un budget à la hauteur de nos ambitions. Alors, l'enveloppe globale est en légère baisse malgré tout, mais c'est une enveloppe qui est maintenue conformément à ce qu'on avait défendu. Il y a également, ça c'est très important, la mise en place d'outils et de leviers pour avoir des revenus agricoles plus forts, plus protecteurs pour les agricultrices et les agriculteurs qui nous nourrissent. Et également des leviers qui vont permettre de répondre de façon plus adéquate aux ambitions environnementales. C'est vraiment une PAC qui est beaucoup plus verte, plus environnementale, avec un volet économique fort. Et donc ça, c'est important. On ne peut pas dire que la PAC ne tient pas compte du Green Deal. Elle sera plus verte parce que, véritablement, à partir de 2023, les aides de la politique de la PAC versées aux agriculteurs seront conditionnées au respect de mesures comme la diversification des assolements, maintien des prairies permanentes. Et donc, pour l'instant, c'est 30% de ces aides qui sont conditionnées. Et à partir de 2023, ce sera 78%. Donc, vous voyez, c'est important. On va créer également une vraie réserve de crise qui va permettre à nos agriculteurs de faire face aux coups durs, aux aléas climatiques, sécheresses ou les inondations. On va mettre en place aussi des éco-régimes pour rémunérer les initiatives qui accélèrent la transition écologique et qui améliorent le bien-être animal. Et donc cette nouvelle PAC, elle est vraiment complémentaire à d'autres avancées structurantes autour de nombreux principes comme plus de revenus pour les agriculteurs qui en ont besoin, plus de transformation agroécologique, plus de protection contre les pratiques déloyales comme par exemple les importations de produits qui utilisent des pesticides alors qu'ils sont interdits en Europe. C'est les fameuses clauses miroirs. Et donc ça, c'est très important parce que nous, on a énormément travaillé là-dessus et on pourra, si vous voulez, y revenir.
Je voulais aussi savoir quelles actions ont été décidées pour encourager les jeunes à se tourner vers l'agriculture. Vous avez déjà énoncé le fait de meilleurs revenus et toutes ces mesures qui y participent, mais est-ce qu'il y a vraiment des actions qui vont être mises en place pour encourager les jeunes à poursuivre dans ce domaine ?
Alors les actions, oui, il y a des actions d'encouragement, effectivement, pour favoriser les jeunes à investir, et donc il y aura des aides qui seront ciblées, notamment pour les jeunes qui reprendront des fermes, mais également, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque pays, il y a des plans stratégiques nationaux qui sont la déclinaison nationale de la PAC, qui vont être présentés à la Commission européenne, et la France a l'intention, effectivement, de développer ce volet, notamment incitation, aide à l'installation des jeunes, puisque il y a énormément d'agriculteurs qui partent à la retraite et encore très peu de jeunes agriculteurs pour reprendre la ferme, soit de leurs parents, soit ces fermes qui sont laissées finalement sans être reprises.
Autre actualité, nous nous approchons de la fin de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors où en sommes-nous et quelles sont les étapes à venir ?
La conférence sur l'avenir de l'Europe, vous le savez, c'est vraiment cette initiative inédite qui donne la parole à tous les citoyens et les citoyennes européens pour démocratiser l'Europe. Je vous en avais parlé, elle a été lancée le 9 mai dernier, jour de l'Europe, à travers une plateforme. Mais bien évidemment, elle se décline sur tous les territoires via des événements thématiques. À ce jour, il y a presque 40 000 citoyennes et citoyens qui ont répondu avec 10 284 idées et près de 200 000 participants à des événements. C'est encore, pour moi, trop peu. Il faudrait que tout le monde puisse participer, tous ceux qui souhaitent. Pour ma part, j'organise ce mois-ci trois événements sur notre territoire normand pour donner la parole aux Normands et transmettre ainsi aux instances européennes leurs contributions. Je vous invite à vous rendre sur la plateforme en ligne mise en place dans le cadre de cette conférence pour retrouver toutes les informations relatives à ces événements. Ces trois événements qui vont être thématiques, un avec les entreprises, un autre avec les routiers et les problématiques de transport routier en Europe, et puis un autre avec les femmes. Quel est le statut de la femme à l'heure actuelle en Europe et comment peut-on à nouveau faire en sorte que les droits des femmes soient préservés en Europe. Et donc notre association pour une renaissance européenne du Calvados, dont je suis présidente, a proposé de nombreuses idées également dans le cadre de cette conférence. Et sur 27 propositions faites par notre association au niveau national, 3 sont issues de l'association du Calvados. On est très fiers, finalement, que chacun ait pu participer à cette initiative démocratique. Alors il reste un mois aux Normandes et aux Normands pour participer. Je les invite à se rendre sur la plateforme. Il ne faut pas laisser l'Europe se faire sans eux et sans nous.
Justement, la femme, vous en parliez. Après l'avenir de l'Europe, parlons donc avenir de la femme. Un débat a eu lieu jeudi 25 novembre au Parlement européen au sujet des violences domestiques et plus généralement des violences faites aux femmes. Donc, quelles constatations sont ressorties de cette discussion ?
Eh bien, effectivement, devoir, entre guillemets, célébrer la journée internationale pour l'élimination de la violence sur les femmes, c'est montrer qu'il en existe encore trop. Et la crise du Covid a montré par des chiffres assez à la fois parlants, éloquents et tristes qu'il y a eu une augmentation des violences faites aux femmes, notamment pendant la période de la Covid. On en a débattu au Parlement européen cette semaine, en absence de progrès au niveau européen sur la ratification de la Convention d'Istanbul. C'est une convention qui a été adoptée par le Conseil de l'Europe en 2011. Elle a été signée par l'Union européenne en 2017. Et cette convention, elle prévoit la création d'un cadre juridique au niveau européen pour protéger les femmes contre toutes les formes de violence, pour les prévenir, pour réprimer, pour éliminer la violence, quelle qu'elle soit, toute la violence domestique. Et à l'heure actuelle, 6 États membres sur 27 de l'Union européenne n'ont toujours pas ratifié ce traité. La Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie. C'est déjà une chose de ne pas ratifier. La ratifier, effectivement, c'est une première étape, mais je crois que ça ne suffit pas. Et en France, comme dans le reste de l'Europe, il faut vraiment travailler sur tous les leviers, à toutes les échelles, bien évidemment européennes, nationales, locales et régionales. Et moi, je voudrais vraiment tirer mon chapeau à toutes les associations sur le terrain qui protègent, qui aident les victimes, notamment Itinéraire à Caen et le foyer Jacques Cornu à Bayeux.
Et quelles mesures sont donc envisagées pour améliorer la situation suite à il y a déjà la Convention d'Istanbul, mais quelles autres actions sont pensées pour améliorer la situation ?
Je pense que ce serait déjà une bonne chose que ça puisse être signé parce que à partir du moment où la convention est signée par tous les États, on peut travailler sur vraiment un cadre juridique de protection des femmes pour éviter toute forme de violence et donc ça nous freine considérablement. Il y a des discussions pour chez nous, Renew, travailler sur ce volet dans le cadre du pacte Simone Veil, c'est-à-dire au niveau européen cette fois-ci, et non pas au niveau du Conseil de l'Europe, donc au niveau des 27, essayer de faire en sorte d'avoir également de créer un statut et d'avoir une espèce de socle de règles européennes pour muscler en fait mieux protéger les femmes et les hommes de violences domestiques et muscler les mesures d'urgence notamment. Mais on est vraiment, vraiment loin du compte, je trouve, sur ce sujet. Il y a des pays qui sont très en avance, l'Espagne notamment, dont on essaie de s'inspirer. Effectivement, ils font un pas de la part des États d'abord. Et, c'est assez inquiétant de la part de certains pays, j'ai cité la Hongrie notamment, qui peuvent ne pas avoir une approche très pro-égalitaire vis-à-vis des femmes.
Nous avions également évoqué ensemble la présidence tournante de l'Union européenne. Pour rappel, tous les 6 mois, un des États membres préside le Conseil de l'Union européenne. Et cela faisait 14 ans que la France n'avait pas présidé. Le 1er janvier 2022, ce sera enfin à notre tour. Cette position permet donc notamment de mettre sur le devant de la scène les dossiers européens qui nous touchent. Sur quel sujet la France veut et va-t-elle donc agir ?
Et oui, effectivement, la France a la chance et l'opportunité de présider l'Union européenne pendant 6 mois, tous les 14 ans. Et à partir du 1er janvier prochain, ce sera son tour. Alors, il y a 3 gros sujets, j'allais dire majeurs, l'autonomie stratégique et la régulation des géants du numérique, qui seront les principaux dossiers que notre pays portera. Alors, pour ma part, j'ai beaucoup de ces dossiers en charge, notamment depuis très près les dossiers relatifs à la régulation à la fois des géants du numérique et également des services et des contenus. Je suis aussi sur le travail sur les subventions étrangères, c'est-à-dire comment on arrive à contrôler les subventions qui sont apportées par des États tiers et qui viennent être arrivées sur notre territoire, dans l'Union européenne, marché intérieur, à travers en fait les investissements dans les entreprises et comment on fait pour que tout cela ne vienne pas distordre la concurrence et empêcher nos propres entreprises de se développer. Et enfin, je travaille également sur la révision de la directive sur les crédits à la consommation. Comment permettre davantage à nos consommateurs européens de pouvoir emprunter à crédit dans des conditions de protection et de protection notamment de leur vie privée, et tout en faisant en sorte de simplifier également la vie des banques ou des entreprises de crédit. Donc c'est tant vraiment de nombreux sujets qui nous concernent directement au quotidien, dont moi je reviendrai tout au long de la présidence française de l'Union européenne pour bien évidemment vous tenir informé de l'avancement des dossiers. La France sera au rendez-vous de ce moment historique et il y aura bien d'autres sujets encore puisque l'actualité regorge également de difficultés, en particulier sur la pêche que je suis beaucoup à la suite du Brexit.
Merci pour ces infos. Et lors de notre rencontre du mois d'octobre, vous nous aviez parlé d'un événement en Normandie avec Chonu, il me semble, pour l'occasion. Qu'en est-il ?
Eh bien, cet événement, il est plus que jamais programmé d'actualité. Alors, sous réserve, bien évidemment, des conditions sanitaires, mais à ce stade, il n'est pas mis en péril. 3 temps sont prévus avec Chonu. Il s'agit de mettre en avant la Normandie en lui donnant une dimension européenne, montrer combien la Normandie est visible et importante au niveau européen et combien l'Europe finalement et la Normandie se ressemblent puisqu'ils sont vraiment, c'est vraiment une unité de différentes spécificités dans la diversité justement. Il y a 3 temps prévus, un temps d'exposition, d'inauguration de cette exposition à Bruxelles au Parlement européen le 1er février et puis pendant une semaine cette exposition sera visible et notamment on y enverra des jeunes aller la voir au Parlement européen et ensuite à partir la mi-février, eh bien, cette exposition sera itinérante partout en Normandie. Et donc, j'espère que RCF pourra nous suivre et puis en parler parce que c'est une exposition qui donne à voir à travers 25 beaux dessins de Chonu, la diversité de la Normandie et ce qu'elle représente au niveau européen.
Merci beaucoup Stéphanie pour nous avoir éclairé sur l'actualité européenne.
Merci à vous Victoire, passez une bonne journée. Au revoir.
Hallo.
Hola.
Buongiorno a tutti.
Hello.
Bonjour.